5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
C'est donc la 36e édition de Orion Chemin de l'Espace, votre mission consacrée à l'actualité du ciel, de l'espace, de la conquête spatiale, proposée par le groupe Orion. Ce mois-ci, eh bien, c'est un hommage à Stephen Hawking que nous vous proposons. Stephen Hawking, eh bien, c'est un scientifique hors norme, c'est une légende de la physique, on peut le dire. En tous les cas, c'est le ou un des scientifiques contemporains, certainement le plus célèbre du monde aujourd'hui. C'est un personnage tout à fait exceptionnel, Jean-Michel.
Oui, Gérard. Donc, il le dit lui-même, je suis né le 8 janvier 42, donc 300 jours, jour pour jour, après la mort de Galilée.
Ouais, alors ça, c'est quand même un signe, quelque part.
C'est un signe, oui. Hein, et nous verrons qu'il y en a d'autres. Donc, il est né à Oxford, bien que ses parents aient résidé à Londres. Oxford est un bon endroit pour naître durant la guerre. Voilà, c'est lui-même qui le dit, parce que les Allemands s'étaient mis d'accord pour ne bombarder ni Oxford ni Cambridge. En échange de quoi, les Anglais s'abstenaient de bombarder ni Heidelberg et Göttingen. Bon, et comme il le dit, il est bien dommage que ce genre d'arrangement civilisé n'ait pu être étendu à un plus grand nombre de villes.
Donc en fait, Stephen Hawking, c'est un homme qui a consacré, on va le voir dans cette émission, toute sa vie, finalement, à percer les secrets de l'univers, hein, et puis aussi à populariser l'astrophysique. Et il a eu un rôle important en termes de vulgarisation en particulier, de choses tout à fait compliquées.
Alors, tout ce qu'on appelle la cosmologie, cette étude de l'univers, de l'origine du Big Bang à nos jours. Et son premier livre, on va dire, a été mis à portée du grand public. Ces choses qui sont parfois très difficiles, hein, quand on parle de physique quantique, de cosmologie, c'est compliqué pour le commun des mortels. Et bien, Stephen Hawking a eu le mérite de mettre à la portée du grand public des choses relativement simples pour expliquer ces phénomènes.
Donc voilà, né en 42, il s'est éteint le 14 mars dernier, à 76 ans, et sa vie a été un...
Alors, un autre petit signe, le 14 oui. mars, parce que chez les anglo-saxons, c'est le jour pi. 14 mars, c'est 3-14. Ils appellent ça le jour pi. Et pour un scientifique, 3-14, c'est quand même quelque chose d'important.
Hein. Absolument. Donc voilà, c'est quand même...
Un second signe.
Second signe curieux. Mais quand même, sa vie et même son image, j'allais dire, malheureusement, est marquée par la maladie tout à fait affreuse qui lui a laissé une tête intacte, mais qui lui a complètement esquinté le corps, on peut dire.
Ah, complètement dégénéré. Alors, il le dit lui-même déjà dans son enfance, lorsqu'il était à l'école, dans les jeux de balle, il avait un manque de précision pour lancer la balle avec ses copains. Donc il dit, est-ce que déjà, tout jeune, j'avais déjà des signes qui laissaient entrevoir une future maladie?
En tout cas, voilà un adolescent plutôt brillant. Donc il est à Oxford. Je crois que son père voulait qu'il soit médecin. Lui, il était plutôt passionné par les maths.
Voilà.
On peut dire ça. Et finalement, il se retrouve à Cambridge.
Alors Oxford, Cambridge, hein, il a fait les deux, et il va avoir des maîtres de thèse qui vont lui permettre de travailler sur justement sur cet univers profond, sur ces fameux trous noirs dont on a parlé tout à l'heure. Et donc là, il va très vite prouver sa compétence.
Sa compétence, et c'est aussi à Cambridge, donc où il intègre effectivement les classes de physique et de mathématiques, qu'il découvre. Enfin, c'est les premiers signes de la maladie. Il est alors relativement jeune. Et c'est à 21 ans, finalement, qu'on décèle une maladie de Charcot. Donc
qu'il appelle la SLA. Hein. Alors, on lui demande souvent, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir la SLA? Ben, pas grand-chose. Alors, il dit lui-même aussi, il a été hospitalisé chez un avec des leucémies qui étaient en fin de vie. Et qu'il avait quand même un peu d'humour, parce qu'il dit, finalement, les leucémies, ils sont morts et moi, j'avais de la chance.
Voilà, donc c'est quand même un cerveau, un esprit, une force aussi de caractère tout à fait exceptionnel. Bien entendu, lorsqu'on découvre cette maladie, qu'il est devant face à ce destin, qui s'est effectivement cruel et certainement un peu irréversible. Et là, on a une pensée pour tout, peut-être dans nos auditeurs, des gens qui nous écoutent et qui souffrent de maladies de ce genre-là. Bon, bah, effectivement, premier réflexe, il est plutôt dans une dépression, mais il rebondit.
Il va se battre. Donc il va se marier.
Et il se marie.
Hein, il va se marier avec Jeanne Wild, donc avec laquelle il restera jusqu'en 95. Il aura trois enfants.
Voilà. Et puis, même plus tard, un deuxième mariage.
Mariage avec son infirmière.
Hélène Masse, et avec laquelle il reste 11 ans.
Et avec laquelle, après, il va divorcer. Bon, je suppose que ça devait être très, très dur de vivre avec lui, parce qu'il lui fallait quelqu'un au quotidien. Bon, et toujours en souffrant aussi, se battre pour faire des émissions de télévisées, pour écrire, faire des conférences.
Voilà. En tout cas, c'est dans les années 70, 75. En 74, il est incapable de se nourrir, ni même de sortir de son lit. Donc ça devient vraiment... il est complètement victime de son corps, mais sa tête fonctionne complètement, comme on va le voir d'ailleurs, parce qu'il va trouver tout un tas de
subterfuges.
Pouvoir communiquer, penser et vulgariser choses très compliquées. En 1985, Stephen Hawking perd définitivement l'usage de la parole. Suite à une pneumonie en particulier, une trachéotomie, il ne peut absolument plus communiquer. Mais encore une fois, son esprit brillant est intact. Et donc là se pose le problème de la communication avec les autres et puis de son travail intellectuel scientifique.
Le fait qu'il soit paralysé et qu'il ne puisse plus parler avec donc il va avoir l'assistance d'un ordinateur hyper sophistiqué. D'ailleurs, le concepteur de son ordinateur n'était autre que le premier mari de sa seconde épouse.
D'accord.
Voilà. Donc vous voyez, il y a entre les soins et la mise en place de toute cette technologie qui va lui permettre de rester, on va dire, vivant, au contact avec les scientifiques, au contact avec le monde. Tout le monde a œuvré aux côtés de Stephen Hawking.
Donc l'image que l'on a de Stephen Hawking aujourd'hui dans le monde de la science, dans le monde tout court, c'est effectivement l'image d'un homme complètement cassé dans un fauteuil et qui ne peut effectivement que communiquer qu'à travers cet outil, l'ordinateur ou un clignement d'œil. C'est vraiment l'image de lui qui est connue par le grand public.
Par le grand public, les images qu'on a pu voir dans les journaux, qu'on peut voir aussi sur Internet, si on tape Stephen Hawking dans un moteur de recherche, c'est cette image-là qui apparaît en premier, On voit cet homme qui apparaît lourdement handicapé.
Ouais, plus que lourdement, malheureusement. Et malgré tout ça, son esprit intact, il travaille et il rentre dans un univers, entre guillemets, totalement nouveau, puisque sa quête, ça va être de comprendre complètement l'univers et pourquoi l'univers est comme il est et pourquoi il existe même.
Et il fait part de ses craintes quant aux chances de survie de l'humanité. Il cite souvent la possibilité d'un impact d'astéroïdes. Il est très, très inquiet pour ces choses-là. Notre Terre qui s'abîme. Donc, comme il se dit, il va participer au spatial aussi là-dedans, en cherchant à dire il faudra peut-être qu'un jour l'humanité aille vivre ailleurs.
Oui.
Alors, là, ça nous emmène un débat plus que philosophique.
Sur la question de l'environnement et d'écologie, il a souvent cette... on n'en sortira que par la technologie, il faudra partir ailleurs, etc. Avant de partir sur des choses un petit peu plus connues de lui, en particulier le travail qu'il a fait sur les trous noirs, il a effectivement commencé à travailler seul dans son coin avec cet ordinateur et ses neurones à lui, dans son monde à lui. Alors dans cet état-là, évidemment, Stephen Hawking se plonge effectivement dans ce travail scientifique, et en particulier les trous noirs, bien entendu, mais aussi sur quand même deux événements du XXe siècle, que sont la relativité générale et la mécanique et la physique quantique. Et lui, sa quête, c'est effectivement comment concilier ces deux grandes théories qui expliquent le fonctionnement de l'univers, qui sont apparemment incompatibles, la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique qui s'applique à l'infiniment petit. Donc voilà son terrain de jeu.
Son terrain de jeu, son terrain de recherche, donc sur ces fameux trous noirs. Alors, cette recherche sur le trou noir, il va essayer de détailler un trou noir. Je pense à un film qui est passé sur les trous noirs, qu'on en a vu à la télévision, où le bord d'un trou noir, définir le bord d'un trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements.
L'horizon des événements, oui.
Voilà, ce sont des faits. Voilà, donc ça, c'est du Stephen Hawking pur et simple, j'allais dire. Hein. Donc, les trous de ver, comment la communication entre deux trous noirs, voilà, la physique quantique, et tout ce qui a été évoqué, la théorie des cordes, la théorie des brames, vraiment cette recherche sur l'univers, et puis comme je vous disais, de ce Big Bang à aujourd'hui, et puis il nous invite aussi à ce Big Crunch, c'est-à-dire une possibilité que l'univers ferait marche arrière, se rétracterait sur une densité énorme. Voilà, donc là-dedans, il y a de quoi lire, il y a de quoi étudier, ouais. Et bon, c'est toujours difficile hein, quand on parle, je pense à nos réunions au groupe Orion, quand on parle justement de cette physique quantique, bon, souvent on décroche un petit peu, mais Stephen Hawking lui a eu le mérite d'écrire dans ses livres des choses relativement faciles à comprendre.
Alors, effectivement, il a quelques livres célèbres, on terminera l'émission pour les évoquer, mais qui ont été écrits il y a déjà pas mal de temps.
Oui.
Et depuis, la science galope, parce qu'il faut le rappeler, je veux dire, la connaissance, les scientifiques, avancent très très vite dans le domaine de la connaissance. Et lui, sur les trous noirs, il évoque une chose, d'ailleurs on parle du rayonnement Hawking, il parle de l'évaporation des trous noirs et de la dissociation antiparticules.
Oui.
Donc ça devient un petit peu technique, mais je veux dire, à l'époque où il a remué tout ça, où il a amené ça effectivement dans le domaine de la réflexion publique, c'était complètement innovant.
Voilà.
Hein, aujourd'hui, c'est un peu banalisé, mais bien qu'il y ait peu de gens qui comprennent, évidemment, très peu.
Mais les chercheurs l'ont suivi. Hein.
Donc Stephen Hawking, cet homme brisé, cet homme cassé, est quand même celui qui fait progresser la connaissance,
la science
dans
oui.
ce domaine-là.
Oui, oui.
Et aujourd'hui, beaucoup de nos grands scientifiques, enfin que plus jeunes évidemment, sont effectivement sont à l'école de Stephen Hawking.
Je pense à Christophe Galfard, dont on a cité le livre à la précédente émission.
Oui.
Christophe Galfard, qui est un grand scientifique, est un élève de Stephen
Hawking. Est un élève de Stephen Hawking. Ouais. Il le rappelle d'ailleurs souvent. C'est un homme, Stephen Hawking, que l'on ne peut pas rencontrer comme ça sans être remué et puis sans être, j'allais dire, enrichi en même temps par la puissance de son cerveau et la force de son caractère sur un corps.
Ce qui étonnera toujours, c'est comment un homme lourdement handicapé comme ça fait progresser la science. Ça, c'est extraordinaire.
Voilà. Donc Stephen Hawking, bien entendu, un homme remarquable. On fait son hommage modestement dans cette émission Orion Chemin de l'Espace. Eh bien, on vient de décrire un petit peu tout ce qu'il a pu apporter à notre humanité. Bon, à 32 ans, c'est le plus jeune membre de la Royal Society.
Donc en 1974.
Voilà, il occupe la place d'ailleurs d'un brillant prédécesseur qui était Isaac Newton.
Oui.
Donc voilà encore un autre petit.
Il y aura un petit clin d'œil, je vous le dirai.
Après,
avec Isaac Newton, oui.
Voilà. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est complètement dans son temps, malgré son handicap,
oui.
Puisqu'en fait, il participe à des séries TV, des livres, oui. etc., etc. Donc,
alors, d'abord, professeur à Cambridge de 80 à 2009.
Oui.
Hein, donc, c'est quand même en 2009, il n'y a pas si longtemps. Donc, il a quand même assuré ses cours. Et puis, des séries télévisées... aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, puisque la NASA lui a rendu aussi un bel hommage. Hein, là, il a interpellé un peu tous les spationautes, tous les astronautes, par sa connaissance de l'univers.
Alors, il fait aussi des livres pour enfants. Là, on est toujours dans la vulgarisation. C'est un homme qui donne, qui ouvre sa connaissance. Hein.
Oui, qui fait partager.
Oui.
Voilà, et comme il dit souvent, un soir après la naissance de ma seconde fille, hop, ça y est, tout d'un coup, je pars sur les trous noirs. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on entend un homme comme ça, on pense, nous, la naissance d'un de nos enfants, ben oui, on pense peut-être à autre chose, mais lui, voilà, il est déjà dans les trous noirs.
Et j'entraîne sur le rayonnement Hawkins,
voilà.
Dans les trous noirs. Et puis alors, autre chose extraordinaire, il chante avec U2, avec Pink Floyd, avec Monty Python, c'est extraordinaire quand même, hein. Cette volonté de participer,
se
d'être, voilà, d'exister.
D'exister, avec cette maladie, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il a pris très jeune. Mais malgré ça, il a quand même vécu jusqu'à 76 ans. C'est extraordinaire.
Voilà. Et il y a encore très peu de temps, il apparaissait dans une conférence à Hong Kong par hologramme. Bon, on a nos Français qui font des hologrammes parfois,
alors,
nos hommes politiques.
Alors, il faut dire aussi que la progression de l'informatique sur ces 20 dernières années l'a beaucoup aidé. Il a utilisé tous ses outils, et puis on va dire peut-être que avec cette maladie, des outils ont été développés spécialement
lui. Donc j'allais dire son appétit de nouvelles technologies, c'est aussi un remerciement à la technologie qui l'a aidé à vivre. C'est ça l'idée, oui. Effectivement. Donc on le voit, cet hommage n'est pas du tout usurpé. Prendre un petit peu de temps dans cette émission pour parler non pas de la conquête spatiale au premier degré, mais de quelqu'un qui a certainement conditionné beaucoup de réussite. Hein.
Voilà, mais il est dans la conquête spatiale parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a travaillé avec la NASA. Il disait qu'il faut qu'on aille un jour, qu'on accélère, quitte à rejoindre la vitesse de la lumière si on peut un jour, qu'on puisse aller ailleurs, que l'humanité puisse avoir une planète de secours.
Voilà, donc merci Stephen Hawking et merci pour toute la... On viendra sur la bibliographie
Simplement dire que bon, il sera enterré le 31 mars à l'abbaye de Westminster et il sera aux côtés d'Isaac Newton.
Eh bien voilà, un autre rendez-vous dans l'histoire de deux grands hommes. En tous les cas, merci Monsieur Stephen Hawking pour tout ce que vous laissez et puis l'exemple que vous donnez à tous ceux qui souffrent. Jean-Michel, un mot maintenant sur les lancements du mois, comme chaque fois. Il y a eu, donc là, il y a eu un. C'était très récemment.
Le 21 mars, donc trois hommes sont partis rejoindre la station spatiale, donc ils étaient trois, et on reporte l'équipage à six. Donc avec une procédure un petit peu ancienne, puisque c'est 24 heures à 48 heures avant de rejoindre la station spatiale, donc ils rejoignent la station le 23 mars.
Donc le voyage est un peu plus long que d'habitude.
Un petit peu plus long. Alors ce voyage, il a une particularité, ouais. Parce que bon, il y avait un Russe et deux Américains. Nous savons qu'au mois de juin, il y a la Coupe du Monde de football qui aura lieu en Russie, et ben comme passager du Soyouz, il y avait un ballon de football qui va aller faire un petit tour dans la station spatiale et qui redescendra pour la Coupe du Monde.
D'ailleurs, ce report du lancement était aussi lié aux élections russes.
Voilà, il y a eu un calendrier jour férié.
Qui a été un peu bousculé.
Voilà. Alors, les calendriers nationaux, parfois, perturbent un petit peu les lancements. Et il y a aussi un critère qui n'est pas négligeable, c'est la réhausse de la station spatiale. Alors, c'est que cette station spatiale qui a une masse de 500 tonnes, hein, perd 200 mètres d'altitude par jour. Et de temps en temps, mais il faut la remonter. Donc, toutes ces procédures ont fait qu'on est revenu à une procédure ancienne pour rejoindre la station spatiale pour ce lancement du MS-08.
Voilà, cette remontée est donc une manœuvre, j'allais dire, régulière, on va dire.
Ce qui pourra se reproduire pour d'autres lancements, mais en principe, le prochain lancement prévu dans 3 mois devrait fonctionner en procédure rapide.
D'accord. En tout cas, ce lancement a été réalisé, comme d'habitude, bien sûr, par le vaisseau Soyouz, qui est le seul véhicule pour habiter, on va dire, pour le moment.
Alors, très, très intéressant, voir ce départ, parce qu'il était de nuit. Départ de nuit, et cette fusée qui part du Kazakhstan, dans le froid du Kazakhstan à cette époque, de nuit, avec ses belles couleurs des flammes. Alors, on aura l'occasion de revenir peut-être sur un sujet intéressant, c'est la couleur des flammes des fusées.
Voilà, et la lumière a besoin de la nuit, bien entendu, comme toujours. Eh bien Jean-Michel, les lancements du mois, c'est aussi l'actualité en Chine, puisqu'on rappelle que les Chinois envisagent effectivement 35
lancements
en 2018, et qu'on vient d'en lancer donc il y a très peu de temps.
C'était au mois de mars, donc un satellite d'observation, position géostationnaire, voilà. Donc avec ces différents lanceurs, la Chine a l'avantage d'avoir une panoplie de lanceurs, petite charge, moyenne charge, charge un petit peu lourde, à elle toute seule, ce qui est important. Bon, les USA les ont, mais pas encore, puisqu'ils ne peuvent pas lancer des hommes, et ça,
oui,
c'est un gros handicap.
Oui, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure avec le lancement sur l'ISS.
Hein, oui, donc on a que le Soyouz. Donc cette station spatiale aussi, ou peut-être un jour, il y aura une station chinoise. Alors, une station chinoise, il y en a une qui nous inquiète.
Alors, voilà, effectivement, c'est Tiangong 1, c'est
Tiangong 1.
En attendant
donc,
Tiangong 2, peut-être.
Tiangong 1, c'est Palais Céleste, hein, ouais. Donc un chinois. Donc, station lancée il y a quelques années, puis qui a été abandonnée. Ça fait une masse de 8,5 tonnes. Et petit à petit, elle redescend. Il y a la traction terrestre qui joue un petit peu. Actuellement, elle est à peu près à 227 km à l'heure où nous parlons au-dessus de nos têtes. Donc ce qui veut dire qu'elle se rapproche des frottements de l'atmosphère.
Donc, est-ce que l'on commence à comprendre à peu près sa trajectoire, ou maîtriser en tout cas sa trajectoire
Elle est un petit peu livrée elle-même, mais on comprend sa trajectoire. Alors, ouais. Sa chute est prévue 43 degrés nord, 43 degrés sud.
Ah, nous, on est 45 degrés nord pour
le
RCF puits, le puits.
Non, hein, voilà.
Bon, on va être préservé, donc RCF le puits peut dormir tranquille.
Voilà. Alors, par contre, cette station est bien sûr surveillée, et on va dire que prévue entre le 29 mars et 9 avril, et chaque jour, on affine un petit peu toutes ces données, et je pense que le jour où elle va carrément rentrer dans l'atmosphère, nous aurons l'information en temps réel, et ça sera intéressant, Gérard, d'avoir cette information, tout simplement parce que si elle se rapprochait des 43 degrés nord, ça veut dire que nous, en regardant côté sud du Puy-en-Velay, ça se passe un soir où il fait relativement clair, on peut revoir un beau feu d'artifice.
Un beau feu d'artifice, ou une belle étoile filante, chinoise. En tout cas, bien, on peut dire que c'est un mois calme. Enfin, chaque lancement est un exploit, on le rappelle.
Oui.
Hein, mais quand même, on a vu des mois beaucoup plus...
Plus actifs,
effectivement, avec beaucoup plus d'activité. Alors, on va terminer cette émission donc consacrée à Stephen Hawking, cet hommage à ce grand homme, et bien en évoquant deux de ses livres qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui sont quand même des monuments de l'édition scientifique.
Oui, donc en 1988, alors ces livres... On ne les trouve plus, on va dire, sauf peut-être sur les brocantes, mais il est probable qu'avec la mort de Stephen Hawking, il se profile une réédition. Donc, je vais vous parler du premier qui a été écrit en 88. Ça s'appelle Une brève histoire du temps.
Ça, c'est le... hein,
c'est du Big Bang au trou noir.
Voilà. Ouais. On rappelle quand même que lui, alors, il est sorti dans les années
89.
Hein, 89.
Voilà. Il a été écrit en 88, sorti en 89.
En 89, on est à la pointe de la connaissance à travers ce livre-là, nous dit des choses tout à fait. Alors, bien que ce soit un livre de vulgarisation.
Oui. Et ce qu'il est important aussi, c'est que la préface est de Carl Sagan, et Carl Sagan, grand scientifique américain aussi.
Voilà, là on est dans la cour des très grands, on va dire.
Voilà.
Voilà, très bien. Donc on rappelle le titre, Stephen Hawking.
Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir.
Voilà, donc faites les brocantes si ça vous intéresse, ou surveillez les nouvelles éditions, les rééditions qui ne pourraient, dans les 6 mois qui viennent, pourraient très bien être proposées. Et puis un deuxième...
Alors, qui s'appelle Trou noir et bébé univers.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de 95, ce livre-là ?
Donc, on progresse. Alors, ce livre, il est intéressant parce que je vous en ai cité quelques passages au début de l'émission. Ouais. Et il commence à raconter sa vie. Sa vie, ses mariages, sa maladie. Hein, et à l'issue de ça, après, il se consacre uniquement à la science, en racontant le rêve d'Einstein, l'origine de l'univers, la mécanique quantique des trous noirs, le temps imaginaire, la notion de temps. Et cette notion de temps qui intéresse aujourd'hui tous les scientifiques, les mathématiciens, les cosmologistes, qu'est-ce que le temps ? Hein ? On se souvient d'un grand professeur de mathématiques qui interdisait à ses étudiants de prononcer le mot « temps ». Voilà. Donc, vous voyez, ça nous intéresse beaucoup. Alors, ces livres sont très, très intéressants à lire et d'une façon, je veux dire, relativement simple.
Voilà, Une brève histoire du temps, Trou noir et bébé univers de Stephen Hawking. On termine en rappelant quand même le site Orion.
Alors Orion, donc vous verrez toutes nos informations avec notre prochaine observation publique fin avril. Voilà, donc www.orion43.fr.
Orion43.fr. Donc, pour tous ceux qui nous connaissent et qui viennent nous visiter à l'observatoire
du Betz,
hein, l'observatoire de Haute-Loire au Betz, on pourrait presque dire, puisque les gens viennent de loin, eh bien, vous aurez dans le mois qui vient toutes les informations utiles
en ligne sur le site.
Les conférences proposées cet été, les soirées aussi ouvertes au public, etc.
Avec une grande soirée fin juillet pour l'éclipse de lune.
Voilà, et les amateurs du groupe Orion, le groupe Astronomie du Velay, sera toujours content de vous accueillir pour vous faire découvrir le peu qu'ils savent, finalement, sur cet univers étrange. À bientôt.
À bientôt.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.